France Culture.
Il a surgi très très tôt. Il a surgi par une interdiction.
Éric Orsenna, écrivain et académicien.
Ma famille a une maison sur l'île de Bréhat depuis 1880. Et nous passions tous les étés dans l'île. Et sur la côte ouest de l'île, juste en dessous du phare du Rosello, il y avait un rocher particulier qui s'appelait la chaise de Renan. C'est là où Renan venait de temps en temps regarder l'océan. Et il nous était interdit de nous asseoir sur la chaise de Renan. Parce que dans ma famille, notamment les femmes, c'est-à-dire ma grand-mère et sa sœur, avaient été élevées à Lyon dans, disons, une religiosité un peu bête. Et donc Renan, pour eux, c'était l'antéchrist. Et elles avaient l'idée que peut-être en s'asseyant sur la chaise de Renan, les mauvaises idées du dit Renan nous entreraient dans la tête. Et comme elles nous voulaient vraiment catholiques, puisque nous étions enfants de cœur, nous servions la messe, etc., Renan, c'était le diable. Donc Renan est arrivé très très vite dans ma vie, au fond. Je ne savais pas qui c'était, je savais qu'il fallait s'en méfier.
Je me propose d'analyser avec vous une idée, claire en apparence, mais qui prête au plus dangereux malentendu.
Ernest Renan, qu'est-ce qu'une nation ?
Les formes de la société humaine sont les plus variées. À l'époque de la Révolution française, on croyait que les institutions de petites villes indépendantes telles que Sparte ou Rome pouvaient s'appliquer à nos grandes nations de 30 à 40 millions d'âmes. De nos jours, on commet une erreur plus grave. On confond la race avec la nation. Et l'on attribue à des groupes ethnographiques, ou plutôt linguistiques, une souveraineté analogue à celle des peuples réellement existants.
Toute une vie, Ernest Renan, chantre de la nation, 1823-1892. Un documentaire de Jean-Michel Djian, réalisé par Charlotte Roux. Le discours « Qu'est-ce qu'une nation ?» est interprété par Charles Berling.
Quand je suis devenu administrateur, ici au Collège de France,
Thomas Romer,
évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Ernest Renan, qui en fait était le dernier administrateur au Collège de France qui s'occupait, pas seulement, mais quand même aussi de la Bible, des textes bibliques, du Proche-Orient ancien, du Levant.
Qu'est-ce qu'il laisse comme trace aujourd'hui, ici, Ernest Renan ?
Les traces d'Ernest Renan au Collège de France, c'est d'abord une buste qui se trouve dans la bibliothèque du Proche-Orient ancien. Ici, dans l'appartement, ce qu'il occupait, parce que maintenant c'est plus l'appartement, dans les salons de l'administrateur, il n'y a pas de traces matérielles. Il y a peut-être un peu son esprit qui est présent, mais beaucoup de gens ne savent pas forcément que c'est le même endroit où il a passé les dernières années de sa vie.
C'est un savant.
Myriam Revaud-Dallon, philosophe.
C'est un grand intellectuel, c'est un savant. C'est un homme qui croit à la science. Oui, c'est un homme qui croit au savoir, qui pense qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que la connaissance, que le travail sur les idées.
Renan est l'incarnation de la nécessité d'être transversal dans l'espace et dans le temps.
Renan a travaillé sur Averroès, il a fait sa thèse sur Averroès.
La professeure associée de l'Université de Virginie, Maya Boutagou.
Il était médiéviste, orientaliste, savant de plusieurs langues sémitiques, plutôt l'hébreu que l'arabe, il était plutôt hébraïsant en raison de sa formation théologique. On a chez Ernest Renan une érudition qui n'existe plus aujourd'hui, il faut le dire.
Il était à la fois archéologue, historien, philosophe, homme politique, etc. C'était aussi quelque chose qui, aujourd'hui, est vu avec un peu plus de suspicion, parce que on est dans un contexte hyper spécialisation qui est de nouveau interrogé maintenant. Donc, au Collège de France, on a néanmoins une certaine chance par rapport à ce qu'on peut appeler aujourd'hui la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité, parce qu'on a un petit groupe de professeurs, et ça facilite quand même. Bon, évidemment, chacun reste dans son domaine, mais les contacts sont plus simples, et ils ont moins peur de prendre la parole aussi sur des sujets qui sont pas forcément leur sujet de spécialisation, parce que je pense qu'il y a quand même une conscience de participer à une construction du savoir qui peut pas s'enfermer dans des disciplines. Peut-être c'est aussi un peu l'héritage que Ernest Renan a laissé au Collège de France.
Je disais tout à l'heure à la maladie Berthelot que nous aurions fait le dialogue ensemble.
On doit à Thomas Edison et Gustave Eiffel d'avoir un an avant sa mort enregistré la voix de Renan. Une prouesse technique pour l'époque. C'était le 17 février 1891 à Paris.
La découverte du phonographe me paraît la chose la plus étonnante du 19e siècle.
Les deux ingénieurs avaient choisi l'administrateur du Collège de France parce qu'il était, à ce moment-là, considéré comme le plus illustre des savants français, mais aussi comme l'un des plus influents, tellement sa fameuse conférence sur la nation prononcée en Sorbonne le 11 mars 1882 eut un authentique retentissement international.
C'est presque la date de ma naissance. Je suis donc le 27. Je suis 23.
J'ai découvert Renan quand j'écrivais ma thèse.
Maya Boutagou.
Sur le roman historique dans le monde colonisé au 19e siècle et l'identité nationale, la construction de l'identité nationale. Donc j'ai dû lire Renan, hein, pour comprendre ce que voulait dire l'identité nationale et culturelle. Renan ne me quitte plus.
Je l'ai connu relativement tard, tard.
Myriam Revaud-Dallon.
J'avais lu les souvenirs d'enfance et de jeunesse, voilà. Mais après, quand j'ai commencé à faire de la philosophie politique, à travailler sur un certain nombre de questions de philosophie politique, et évidemment, j'ai lu « Qu'est-ce qu'une nation ?»
Tâchons d'arriver à quelques précisions en ces questions difficiles où la moindre confusion sur le sens des mots à l'origine du raisonnement peut produire, à la fin, les plus funestes erreurs. Ce que nous allons faire est délicat. C'est presque de la vivisection. Nous allons traiter les vivants comme d'ordinaire on traite les morts. Nous y mettrons la froideur, l'impartialité la plus absolue.
Ce document, c'est la conférence prononcée par Ernest Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ?»
Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale.
Ce document, il m'a été remis par mon père lorsque j'ai passé mon doctorat en droit. Et c'est le document que son père, c'est-à-dire mon grand-père, avait donné à mon père Michel Debré lorsque celui-ci a été reçu au concours du Conseil d'État. Et pour ma famille, c'est un document important. Pourquoi ? Parce que moi, je suis issu d'une petite famille de Bavière qui s'est installée en Alsace au moment de Napoléon. Et cette conférence de Renan était pour mon père, pour mon grand-père, pour toute ma famille, quelque chose de très important. Parce que pour eux, être français, appartenir à la nation française, c'est certes comprendre, aimer un héritage, une histoire, mais c'est plus que ça. C'est une volonté de vivre ensemble. C'est une volonté de poursuivre ensemble un chemin. Et donc, il me disait toujours, tu vois, la nation, c'est pas une race, c'est pas une couleur de peau. La nation, ce sont des femmes et des hommes qui ont envie de vivre ensemble et il y a une volonté de regarder l'avenir.
Depuis la fin de l'Empire romain, ou mieux, depuis la dislocation de l'Empire de Charlemagne, l'Europe occidentale nous apparaît divisée en nations, dont quelques-unes, à certaines époques, ont cherché à exercer une hégémonie sur les autres, sans jamais y réussir d'une manière durable. Ce que n'ont pu Charles Quint, Louis XIV, Napoléon Ier, personne, probablement, ne le pourra dans l'avenir. Une sorte d'équilibre est établi pour longtemps. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie seront encore, dans des centaines d'années, et malgré les aventures qu'elles auront courues, des individualités historiques, les pièces essentielles d'un damier, dont les cases varient sans cesse d'importance et de grandeur, mais ne se confondent jamais tout à fait.
Éric Orsenna, comment vous expliquez la postérité de cette conférence du 11 mars 82 à la Sorbonne sur la nation ? On est en fin de vie du côté de Renan, il a déjà des ouvrages majeurs, je ne parle pas de la vie de Jésus ni des souvenirs d'enfance et de jeunesse, mais ce texte arrive évidemment 12 ans après la défaite de Sedan, mais il a marqué les esprits à un point qu'on n'imagine pas, encore aujourd'hui.
Je me suis souvent posé la même question et ma réponse est celle, au fond, d'un romancier. On retient les choses, pas par les idées, mais par l'émotion. On retient le savoir par l'incarnation. Et c'est, au fond, Renan qui fait le résumé. Il sent bien que sa vie s'approche de la fin. Et alors, c'est très frappant, l'évolution. Parce que sans renier l'héritage celtique, c'est-à-dire une nation nous est donnée, il passe à une nation s'est choisie. Et c'est d'année en année et de décennie en décennie incroyablement pertinent. Puisque il est donc 12 ans après Sedan, donc on se demande ce que c'est la France. On est en plein débat entre République et puis tentation de revenir à la monarchie, à l'Empire, etc. Donc, au fond, c'est quoi ? C'est la volonté. La volonté d'être ensemble. Donc, extrêmement laïque, d'une certaine manière.
Il faut replacer ce discours de Renan dans un contexte. C'est le départ de l'Alsace-Lorraine. Je me souviens toujours quand je vais à l'Assemblée nationale de ce que m'avait raconté mon grand-père, famille alsacienne, et sa tristesse, pour employer un mot facile, quand il avait, à la suite de la défaite, il avait vu les députés d'Alsace et Lorraine quitter l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et pour lui, c'était un coup très profond, parce que la famille alsacienne, puisque c'était installée en Alsace, était profondément française. Or, arrachée à la nation française, ses représentants de l'Alsace et de la Lorraine, alors qu'ils voulaient vivre ensemble, vivre avec la France, c'était saigner la nation française. Et c'est d'ailleurs en cela que la conférence de Renan est importante. On n'arrache pas une population à sa volonté. Les Alsaciens lorrains, ils voulaient très profondément, parce que c'était dans leur âme et dans leur cœur, être français. Et on ne construit pas une nation en arrachant un peuple à sa volonté.
La guerre de 70 lui apparaît comme une catastrophe, quoi.
Joël Roman, agrégé de philosophie et ancien co-directeur de la revue Esprit.
C'est son monde qui s'effondre.
Comment vous expliquez cette passion ? Il a même dit « l'Allemagne, c'est ma maîtresse ».
Alors, l'attachement de Renan à la Prusse et à l'Allemagne est effectivement une chose qui est ancienne, avérée et qui n'a cessé de rappeler. Et en l'occurrence, ça s'est manifesté par le fait qu'il entretenait une correspondance suivie avec Strauss, qui était un auteur allemand, qui avait écrit lui-même Une vie de Jésus avant celle même que publiera Renan, et qui était un historien allemand, au fond, assez respecté, quoi. Il y avait chez Renan cet éloge, au fond, de l'Allemagne et aussi de l'université prussienne. Hein. Il y avait quand même cette idée que l'Allemagne, c'était l'université, c'était ce qui, en Europe, en tout cas, représentait une forme d'excellence. Hein. Et c'est ça, c'est le contraste entre cette admiration profonde pour l'Allemagne et, par ailleurs, le constat que l'offensive prussienne, en 70, à la fois est une offensive militaire et politique qui est terrible, mais aussi va rallier précisément toute une série de gens, dont Strauss et d'autres, qui vont considérer que l'Allemagne a raison.
Évidemment, comme moi, je suis bibliste, c'est surtout son œuvre biblique qui m'a beaucoup intéressé.
Thomas Romer.
Mais où se joue un peu le politique, c'est que, en fait, Ernest Renan, c'était un peu le passeur de l'exégèse allemande, qui était un peu plus en avance qu'en France, où, en effet, l'Église catholique dominait encore. Donc, il a été le passeur des travaux de Wellhausen et d'autres chercheurs ici en France. Il y a tout un échange de lettres avec Strauss. Et donc Strauss était un des premiers qui mettait en doute un peu l'historicité de Jésus. Et je pense, en effet, après la vie de Jésus, il était très intéressé à ce type d'approche. Donc oui, il y avait une fascination. Et c'est vrai que peut-être en tant qu'Allemand, je suis plus sensible à cette partie de l'œuvre de Renan où il fait le passage, mais où là aussi parfois des mots un peu, disons, pas vraiment critiques, mais il se moque un peu des Allemands en disant ça c'est que des Allemands qui peuvent aller dans tous ces détails-là, mais en même temps c'est important ce qu'ils font. Donc il avait une, ouais, je pense, une relation un peu complexe et compliquée.
L'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses. Aucun citoyen français ne sait s'il est burgonde, alain, taïfal, visigoth. Tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélemy, les massacres du Midi au XIIIe siècle. Il n'y a pas en France 10 familles qui puissent fournir la preuve d'une origine franque.
L'oubli, pour Renan en tout cas, c'est clair que c'est l'oubli des violences passées.
Joël Roman.
L'oubli, c'est l'oubli de ce qui, d'une certaine manière, a fait la nation. Le grand traumatisme, au fond, qui est oublié, qu'il faut oublier d'une certaine manière pour lui, c'est celui des guerres de religion, c'est-à-dire celui de la guerre civile, et la guerre civile en France, hein, de la guerre civile qui oppose au fond deux France inconciliables. Alors, cette histoire-là, c'est évidemment celle qu'on retrouve à d'autres moments, sous d'autres formes, au moment de la Révolution française, au moment où il y a plusieurs résurgences au fond de cette violence. Hein. Mais l'oubli, c'est d'abord l'oubli de la violence qui dresse au fond les Français les uns contre les autres, c'est-à-dire qui fait que la nation, c'est quand même un bien commun et qui permet de se sentir les uns comme les autres Français, alors même qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses.
Renan connaît les extrémismes possibles et son discours, qu'il considère comme son testament intellectuel.
Maya Boutagou.
Son discours montre qu'il faut aller au-delà de ces divisions. Il ne justifie aucune définition de la nation, ni par la race, ni par la langue, ni par la société d'intérêt, ni par les frontières, donc ni par le territoire, ni par la religion. Et toutes ces définitions, paradoxalement, entrent de façon rigide dans la construction des nations. Mais je pense que son discours montre qu'il faut penser la nation de façon plus ouverte.
Quand Renan a prononcé cette conférence,
Myriam Revaud-Dallone,
il s'est insurgé très clairement contre une conception substantialiste ou essentialiste de la nation. hein, puisque dans le cours de sa conférence, c'est très bien déroulé sur le plan pédagogique, c'est très clair. Ça, il faut dire que sur le plan professoral, c'est un texte assez extraordinaire, un texte remarquable. Et je dirais que au fond, le noyau de ce texte, c'est son opposition à la conception, disons, allemande ou germanique de la nation, à ce qu'on appelle la conception völkisch de la nation, qui fait du peuple racial, ethnique, une unité substantielle, qui est, l'essence même de la nation. Et Renan prend le soin de démanteler systématiquement cette conception substantielle.
Autant le principe des nations est juste et légitime, autant celui du droit primordial des races est étroit et plein de dangers pour le véritable progrès. La vérité est qu'il n'y a pas de race pure, et que faire reposer la politique sur l'analyse ethnographique, c'est la faire porter sur une chimère. Les plus nobles pays, l'Angleterre, la France, l'Italie, sont ceux où le sang est le plus mêlé.
Le mot race est quelque chose qui, au fond, dans le vocabulaire du 19e siècle finissant, est un mot courant. Et c'est pas un mot qui désigne une conception, on dirait aujourd'hui raciste, voire racialiste, du monde. Le mot race est employé pour désigner précisément une forme d'anthropologie, au fond, c'est ça qui est, mais pas d'anthropologie physique, hein, c'est pas. L'idée de race, c'est l'idée qu'il y a des groupes humains.
La question de la race chez Renan est très importante et il l'écarte assez vite, c'est-à-dire qu'il montre que c'est impossible. Et c'est sa perception de la longue durée historique qui lui fait dire ça, c'est-à-dire qu'il y a des mélanges, il y a des rencontres, les populations se déplacent. Et donc pour lui, en tant qu'historien, philosophe de la longue durée, la notion de race ne peut pas vraiment être opératoire lorsqu'il s'agit de définir une nation, surtout lorsqu'il s'agit de définir la France, qui est un lieu, un carrefour entre le nord, le sud. La France est un lieu de passage, hein, de plusieurs populations. Donc, c'est difficile de justifier une idée de race au sens où on aurait pu l'entendre à son époque. Alors, l'ambiguïté au sujet de la race vient peut-être, et ça c'est mon hypothèse, de son amitié plus ou moins avouée avec Gobineau.
Qui est Gobineau ?
Alors l'auteur de L'inégalité des races, et à la publication de son texte, Renan réagit très vite en soutenant le travail de Gobineau et en disant oui, alors c'est dans ses lettres, hein, c'est des échanges épistolaires. Il est difficile de parler de race en France, on ne nous comprend pas. Donc il... C'est peut-être ça qui a jeté le discrédit.
Oui. Mais sa notion de race, telle que pensée à l'époque Joël Roman, comment vient-elle s'installer dans ce discours ? Est-ce que c'est en réaction justement au texte ou au discours de Strauss, de Fichte ? Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec la Prusse et cette idée du patriotisme, l'idée que le peuple, il est le même sang, enfin voilà.
C'est en grande partie en réaction, oui. Dans la conception que va défendre Strauss, c'est l'idée qu'il y a une unité linguistique dont on peut induire une unité de race, en quelque sorte, et dont il faut induire une unité nationale. C'est l'idée que on va mettre ces choses-là en continuité, en quelque sorte. Et Renan s'oppose à ça et dit... alors, il y a un passage qui est très célèbre et très marquant, quoi, quand il dit « Mais si on remonte comme ça à aux conflits initiaux, ceux qui avaient le premier occupant, etc., on va trouver sur les orang-outans. Et on va remonter aux droits des orang-outans qui ont été injustement lésés par les civilisés, parce qu'ils ont et décidé de... Donc, il y a cette idée qu'il n'y a pas de race première, il n'y a pas de race primordiale, il n'y a pas de race supérieure, bien sûr. Alors, on trouverait d'autres textes de Renan qui sont évidemment beaucoup plus problématiques à nos yeux, hein. Tous ceux où il parle de la race sémite, etc., qui sont quand même extrêmement... plus qu'ambigu, hein. On verrait comment Renan, il y a chez lui une sorte de considération considérable pour l'acquis civilisationnel du judaïsme et de l'islam, et en même temps, l'idée qu'il s'agit là de formes de civilisation inférieure.
Ne peut-on pas avoir les mêmes sentiments et les mêmes pensées, aimer les mêmes choses en des langages différents? Répétons-le, ces divisions de langues indo-européennes, sémitiques et autres, créées avec une si admirable sagacité par la philologie comparée, ne coïncident pas avec les divisions de l'anthropologie. Les langues sont des formations historiques qui indiquent peu de choses sur le sang de ceux qui les parlent et qui, en tout cas, ne sauraient enchaîner la liberté humaine quand il s'agit de déterminer la famille avec laquelle on s'unit pour la vie et pour la mort. La religion ne saurait non plus offrir une base suffisante à l'établissement d'une nationalité moderne. À l'origine, la religion tenait à l'existence même du groupe social. Le groupe social était une extension de la famille. La religion, les rites, étaient des rites de famille. La religion d'Athènes, c'était le culte d'Athènes même, de ses fondateurs mythiques, de ses lois, de ses usages. Elle n'impliquait aucune théologie dogmatique. Cette religion était, dans toute la force du terme, une religion d'État.
L'une des raisons qui explique mon travail sur Renan,
la professeure associée de l'Université de Virginie, Maya Boutagou,
c'est la façon dont la nation algérienne va émerger, avec les discours d'un certain nombre d'intellectuels, Ibn Badis et Farhat Abbas, autour d'une définition particulière de la nation. Et l'un des motos, credo que j'ai en tête, moi qui ai grandi dans l'Algérie indépendante, c'est l'arabe est notre langue, l'islam notre religion, pour définir la nation. C'est une définition qui est très restrictive d'une nation. Ça voudrait dire...
Elle est même presque antinomique avec celle de Renan.
Elle est totalement antinomique avec celle de Renan, et c'est ce qui me fait aimer celle de Renan, c'est-à-dire que les mouvements d'indépendance ont plutôt décidé d'aller dans le sens d'une définition ethno-linguistique de la nation, à laquelle s'est ajoutée aussi la dimension religieuse. Et donc, ils ont plutôt pris le parti de Fichte dans le discours sur la nation allemande, plutôt que la question ouverte de Renan, qu'est-ce qu'une nation, qui laisse la définition malléable, plastique, revisitable, réévaluable dans le temps.
Quelle est l'influence de Renan dans le monde arabe ?
C'est une influence que je dirais spectrale, parce qu'il n'y a pas de citation de Renan, on ne cite pas nécessairement Renan, mais on l'imite. Et on l'imite très tôt. Dans le livre sur la nation que j'ai écrit, je montre que quelqu'un comme Georgi Zeidan, qui est un grand homme de la Nahda, qui est la période de modernisation que va connaître l'Empire ottoman, l'Empire qui est encore l'Empire ottoman. Et donc, au moment de cette modernisation, on regarde la France comme, bien sûr, lieu des... Oui, un modèle, modèle de liberté, un modèle d'ouverture. Et Georgi Zeidan écrit un texte sur Mohammed et historicise la figure de Mohammed de la même manière dont Renan a historicisé la figure de Jésus. Il y a eu une circulation de Renan dans le monde arabe, mais peut-être pas une lecture directe de Renan, c'est-à-dire qu'une influence de Renan, c'est pour ça que je parle d'une spectralité de Renan. Georgi Zeidan ne cite pas Renan.
La communauté des intérêts est assurément un lien puissant entre les hommes. Les intérêts, cependant, suffisent-ils à faire une nation? Je ne le crois pas. La communauté des intérêts fait les traités de commerce. Il y a dans la nationalité un côté de sentiment. Elle est âme et corps à la fois. La géographie, ce qu'on appelle les frontières naturelles, a certainement une part considérable dans la division des nations. La géographie est un des facteurs essentiels de l'histoire. Les rivières ont conduit les races, Les montagnes les ont arrêtées. Les premières ont favorisé, les secondes ont limité les mouvements historiques. Sont-ce les montagnes ou bien sont-ce les rivières qui forment ces prétendues frontières naturelles? Il est incontestable que les montagnes séparent, mais les fleuves réunissent plutôt. Non, ce n'est pas la terre, plus que la race, qui fait une nation. L'homme est tout dans la formation de cette chose sacrée qu'on appelle un peuple. Rien de matériel n'y suffit.
Quand on est breton comme Éric Orsenna, quand on est écrivain et qu'on s'intéresse à ce personnage qui est Ernest Renan, on découvre tout de suite autre chose, c'est son obsession des racines celtiques. Il en a même fait un livre, L'âme bretonne, qui est un récit qui, aux antipodes de ce qu'il a pu écrire plus tard. Voilà. Donc une espèce de grand écart permanent dans l'imaginaire personnel de Renan. Comment le breton que vous êtes peut apprécier ce personnage qui, au fond, recouvre tout?
Alors, c'est ça qui est touchant chez lui, c'est qu'il est en contradiction perpétuelle. Alors, il évolue au fil du temps, mais il garde quand même ses contradictions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avance comme ça, pas à pas, sans renier, en étant déchiré, avec les contradictions, et avec des courages invraisemblables, quand même. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire quand il dit que Jésus est un homme incomparable. Quand plus tard j'ai dit à ma grand-mère et à sa sœur « un homme incomparable », c'est déjà pas mal, mais c'était comme si j'avais parlé la voix du diable, que le diable qui était venu en moi s'exprimait « mais c'est pas un homme, c'est le Fils de Dieu ».
Alors, il est honni par les cléricaux et par l'Église catholique.
Joël Roman, agrégé de philosophie et ancien co-directeur de la revue Esprit.
Il faut aussi voir que Renan est un auteur qui a plusieurs lignes, au fond. Une ligne, c'est la vie de Jésus, et c'est cette idée qu'on peut faire une histoire respectueuse et le plus rigoureuse possible en termes historiques, selon les canons de l'époque, mais selon, malgré tout, une histoire qui se veut scientifique, de cet homme qui s'appelait Jésus et qui va se présenter comme étant le sauveur du monde. Ou, enfin. Et donc, cette idée-là est évidemment une idée qui va hérisser et va alerter les catholiques à tel point que la vie de Jésus sera mise à l'index. Une Église catholique, il faut le rappeler quand même, à l'époque, est une Église catholique profondément hostile à la modernité.
Joël Roman, on peut considérer que Renan est assez habile pour considérer que la religion continue de garder sa place, que la science, c'est l'avenir. Incontestablement, Renan joue la carte de la science parce qu'il joue la carte de la vérité. Et qu'au fond, tout ça, on comprend que c'est difficile intellectuellement à structurer, mais il y arrive quand même, non ?
Tout à fait, mais ça, le grand combat de Renan, alors c'est un texte qui s'appelle « L'avenir de la science », qui est un des grands textes de Renan, qui est un texte qui est écrit dans les années 48, mais qui va publier beaucoup plus tard. Donc « L'avenir de la science », c'est un texte qui est fondamentalement scientiste, qui fait un projet, en quelque sorte, de développement de la société, fondé sur la science et fondé sur les acquis de la science et sur les bienfaits que la science va pouvoir procurer en termes de progrès, en termes d'émancipation, alors non seulement aux individus, mais à la société dans son ensemble. Mais ce scientisme de Renan, il n'en démordra pas, jamais. Il va considérer que c'est précisément une de ses fonctions que d'être une des vigies, en quelque sorte, très scrupuleuses des progrès de la science. Et ça va être profondément le cœur de son combat contre les différentes formes d'obscurantisme. Là-dessus, il n'y a aucun doute pour lui.
Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis.
Renan était culturellement chrétien, mais il n'était pas, je pense, un dévot, le moins qu'on puisse dire. Il était assez profondément anticlérical, et tout en respectant la religion, en disant d'ailleurs dans ses mémoires ce qu'il doit à cet héritage religieux. Il faut pas oublier que Renan avait été séminariste, a été ensuite défroqué, etc. Mais enfin, il participe au fond d'une histoire...
Sa culture est religieuse.
D'une histoire religieuse, bien sûr, mais comme beaucoup de gens à l'époque. Hein. Mais... quand il dit un principe spirituel et une âme, c'est du spiritualisme au sens du 19e siècle, c'est-à-dire ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de directement religieux, ça n'a rien de relié à une histoire religieuse liée à une confession particulière. C'est plutôt la reconnaissance que il y a des choses qui sont effectivement de l'ordre de l'esprit. La nation, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de spirituel.
Contrairement à l'extrême droite qui fait du passé un passé inamovible...
Myriam Revaud-Dallone, philosophe.
C'est qu'il n'est pas du tout évident que l'on doive interpréter la possession en commun d'un riche legs de souvenirs comme un héritage, absolument, comme un passé qui ne bouffe pas. Rien dans le texte de Renan ne laisse entendre que le passé ne se transforme pas lui-même. C'est très ouvert, et donc, quand on regarde le début du texte « Qu'est-ce qu'une nation ?», mais au fond, Renan fait presque un éloge du brassage. Historiquement, quand il raconte comment ce sont les Germains qui ont au fond inventé la nation, et qu'au début, très peu étaient les Francs n'étaient pas des Francs.
Très minoritaire.
Donc en fait, il y a un éloge de la mixité.
Et oui.
C'est un homme qui croit à la science, et probablement, je pense que ses origines modestes aussi n'y sont pas pour rien, hein, parce qu'en plus, il y a dans la vie de Renan quelque chose de très intéressant qui est la capacité, il a quitté le séminaire, en fait la capacité, et on retrouve ça dans la nation, dans l'idée de nation, la capacité à s'arracher à des déterminismes sociaux, culturels, au fond, c'est un homme qui croit à la liberté.
Ce qui me frappe beaucoup,
Jean-Louis Debré,
c'est que un homme comme Renan a incarné la nation. Et à incarner une notion spirituelle de la nation. La nation, c'est une notion spirituelle. Une notion spirituelle qui plonge ses racines dans ce que vous êtes. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est parce qu'avant, il y a eu vos parents, vos grands-parents, parce qu'il y a eu toute une tradition. Mais si vous voulez rester ce que vous êtes, c'est ce phénomène spirituel qui fait que vous avez envie de prolonger, de continuer, d'améliorer, d'enrichir l'héritage provenant du passé.
L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours. Une nation n'a pas plus qu'un roi le droit de dire à une province « Tu m'appartiens, je te prends ». Une province, pour nous, ce sont ses habitants. Si quelqu'un en cette affaire a droit d'être consulté, c'est l'habitant. Une nation n'a jamais un véritable intérêt à s'annexer ou à retenir un pays malgré lui. Le vœu des nations est, en définitive, le seul critérium légitime, celui auquel il faut toujours en revenir.
La seule chose dont les gens se souviennent, c'est le plébiscite de tous les jours. Bon, ça, c'est une formule extrêmement frappante.
Il dit à la fois que la nation, c'est le fait d'un choix volontaire, hein, et puis, d'un autre côté, il dit que la nation n'est pas le fait d'un choix volontaire. C'est quelque chose qui est, au fond, hérité, qui est involontaire, qu'on ne choisit pas. Et c'est pas entièrement faux, hein. Évidemment, nous ne choisissons pas de naître français ou allemand ou slovène.
Quand il dit plébiscite, il fait allusion au fait qu'on n'a pas posé la question aux Alsaciens mosellans de savoir s'ils voulaient intégrer le Reich.
Pascal Horry, historien et académicien.
Or, alors, je fais deux remarques parce que ça, il y a un point qu'on ne sait absolument pas, un autre qu'on sait peu. Il n'y a qu'un chercheur néerlandais qui l'a fait remarquer, que cette fameuse conférence en Sorbonne, elle a été testée par Renan aux Pays-Bas, quelques années avant, pour un anniversaire de Spinoza. Et que l'épouse de Renan est d'origine néerlandaise. Traduisons, ceux qui n'ont pas lu Renan, surtout ce texte-là, peuvent penser que c'est encore un chauvin de plus, un nationaliste, etc. C'est absolument faux. Et il s'adresse à un public étranger, et pas n'importe lequel. Les Pays-Bas, c'est le lieu fondateur de la révolution politique moderne, avant la révolution anglaise, la révolution américaine et la révolution française, qui, entre parenthèses, n'arrive que quatrième dans cette série. Donc il s'adresse à des étrangers, il sait très bien qu'il s'adresse à des étrangers. Et c'est passionnant, parce que le plébiscite de tous les jours, les Néerlandais l'ont testé au XVIe siècle. Donc première remarque concernant la conférence de Renan. Et c'était un ami des souverains néerlandais. Deuxièmement, plébiscite de tous les jours. Alors ça, brutalement, ça m'a illuminé, j'y avais jamais pensé. En fait, Renan n'est pas le personnage politiquement aussi clair qu'on pourrait le croire. Il a été victime du Second Empire, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il s'est rallié à la fin à l'Empire qu'on appelle l'Empire libéral, Émile Ollivier, etc. Il a même été candidat, Renan, aux élections de 1869. C'est-à-dire que plébiscite, personne ne le dit quand on cite cette phrase superbe, hein, mais c'est un terme bonapartiste. Plébiscite. Et c'est sous l'égide de cet esprit bonapartiste qu'on a fait l'unité italienne et qu'on a donné à la France, entre guillemets, par un plébiscite des populations, le comté de Nice et la Savoie. Et ça, Renan le savait. Parce que quand il a prononcé en 1882 plébiscite, ça résonnait bonapartiste.
Cette définition de la nation comme plébiscite de tous les jours, qui est une définition au fond démocratique de la nation, bien sûr. Renan n'était pas un grand démocrate. Renan est un penseur élitiste. Et au fond, il n'aime pas beaucoup la démocratie.
Myriam Revaud-Dallon, il assume parfaitement l'idée de ne pas croire en la démocratie, en tout cas d'avoir des réserves et des doutes, de la même manière qu'il a eu des réserves sur la République. C'est un républicain du lendemain, comme disait Hippolyte Taine. Et sur la démocratie, il maintient jusqu'à la fin de sa vie l'idée que la démocratie, c'est pas la panacée.
C'est une position platonicienne, c'est-à-dire que le peuple est ignorant, le peuple est une masse inculte. Hein, je veux dire, on trouve des choses de cet ordre-là dans ce texte. C'est relevé, par exemple, dans l'avenir de la science. Il écrit « La masse n'a droit de gouverner que si l'on suppose qu'elle sait mieux que personne ce qui est le meilleur. Or, la masse ne sait pas ce qui est le meilleur. Et donc, le gouvernement, c'est la raison. » Et donc il y a une critique de la démocratie en tant que la démocratie, au fond, c'est ce qui fonctionne à partir du suffrage universel.
Il n'aime pas le suffrage universel.
Il n'aime pas le suffrage universel. Enfin, c'est un homme, une voix, mais il n'aime pas le suffrage universel parce qu'au fond, toutes les voix ne se valent pas. Parce que quand Renan fait ce type de critique à la démocratie, à la fin du XIXe siècle, c'est pas une critique de la démocratie en tant que penseur politique. Il n'est pas un penseur politique. C'est une critique de la démocratie, au fond, au nom de la science, de ceux qui détiennent le savoir. C'est une critique de la démocratie faite par quelqu'un qui appartient à l'élite intellectuelle. Bon.
L'élitisme intellectuel de Renan est aussi un élitisme social et culturel. Et les masses sont des masses qui sont suspectées de toujours pouvoir, à un moment ou à un autre, retourner ou vouloir retourner à une forme d'esclavage. Ça apparaît assez clairement dans les derniers dialogues philosophiques, qui sont des dialogues philosophiques extrêmement élitistes, précisément.
Il partage un certain nombre de préjugés communs à son époque. Donc il faut aussi l'inscrire dans l'histoire, il faut lui redonner, remettre le contexte historique. Et par exemple, ce texte qui est un peu stupéfiant quand on le lit maintenant, qui s'appelle « La réforme intellectuelle et morale de la France », parce que je peux quand même bien en parler, ce texte qui est écrit sous le coup de, du choc de la défaite. Et alors, c'est un texte où il est question à longueur de pages des ravages de la démocratie, des ravages de l'individualisme, du culte de la facilité, etc. Et il y a vraiment par moments presque des accents, je suis un peu dure peut-être, presque des accents péténistes.
Oui, réactionnaires hein en tout cas. Ouais,
enfin, bah, c'est-à-dire une moralisation, le fait d'expier par la souffrance l'égarement matérialiste, il dit comme l'esprit, il y a une critique de l'esprit de jouissance, un peu qu'on retrouve dans les discours de... Bon, donc, alors par exemple, des formules qui sont très très étonnantes. D'ailleurs, tout ça n'est pas très cohérent. À la fois, la fausse politique, dans toujours dans la réforme, il parle de la fausse politique de Rousseau, alors que Rousseau est quand même le socle, l'un des socles de la Révolution française. La négation de la discipline. Enfin, il y a des tas de choses qui sont pas toujours, au fond, très cohérentes.
La réforme intellectuelle et morale, c'est un des grands textes politiques, pour le coup, de Renan. Et c'est un texte qui date des sorties en 71, mais il était rédigé un peu avant. Quoi. Ouais. La réforme intellectuelle et morale, c'est l'idée que, au fond, ce qu'il faut que la France fasse, c'est précisément quelque chose qui soit une réforme intellectuelle et morale, c'est-à-dire qui réarme, en quelque sorte, intellectuellement et culturellement, le pays. La crise que nous traversons en 1870, j'entends, n'est pas une crise simplement politique, c'est pas une crise institutionnelle, etc. C'est une crise intellectuelle et morale. Alors, c'est un thème qui aura une certaine postérité là aussi. Hein. Et c'est dire que il y a un certain nombre de forces qui ne sont pas libérées, qu'il faudrait libérer, et puis qu'il y a peut-être aussi un certain nombre de freins ou un certain nombre de blocages qui tiennent à notre culture ou à certains aspects de notre culture. De ce point de vue-là, qu'est-ce qu'une nation prolonge et amplifie en quelque sorte ce mouvement de réflexion ?
Nous avons chassé de la politique les abstractions métaphysiques et théologiques. Que reste-t-il après cela ? Il reste l'homme, ses désirs, ses besoins.
Je pense que la postérité de ce texte est le résultat de l'érudition et de la complexité du savoir de Renan, qui est à la fois orientaliste, comparatiste, médiéviste. Et c'est donc cette longue histoire médiévale de la Méditerranée qui permet à Renan de voir se former les communautés, les empires, se défaire les empires et les communautés, les nations se définir de façon très différente, on n'est plus dans une nation cité, on est dans des nations, à l'époque où Renan écrit le texte, des nations qui vont avoir une frontière, un territoire national qui est bien plus ample. Donc c'est bien la notion du temps long, de la longue durée, qui le met en porte-à-faux. Sa perception des phénomènes religieux ou politiques sur la longue durée le met en porte-à-faux avec sa communauté, ou du moins les intellectuels de son temps, qui ne partagent pas toujours son érudition, à la fois historique, linguistique et philosophique.
Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La Confédération européenne probablement les remplacera. Mais telle n'est pas la loi du siècle où nous vivons.
De toute façon, même si on donne des leçons au peuple, ils n'en font qu'à leur tête.
Pascal Horry.
Je faisais travailler mes étudiants, c'était à Sciences Po à ce moment-là, dans un séminaire qui s'appelait déjà « Qu'est-ce qu'une nation ?» Alors je vous avoue que quand ça a été proposé, j'ai entendu l'ironie de certains collègues. Qu'est-ce qu'une nation ? On est dans les années 1985, enfin 100 ans après Renan, quoi. Et je proposais de travailler à mes étudiants sur le Kosovo, ou de travailler sur l'identité corse. Mais c'était très bizarre, apparemment. Et puis, de travailler aussi sur l'ambiguïté de formules comme Tchéco-Slovaquie. Dans ma jeunesse, ça ne posait aucun problème. Il y avait une Tchécoslovaquie, il y avait une Yougoslavie, ça ne posait aucun problème. Et nous avons vu ces identités s'effondrer. C'est ça, pour l'instant, entre guillemets, le sens de l'histoire.
La définition de la nation chez Renan est une définition transitoire. Chez Renan, il y a l'idée que la nation est un modèle transitoire et qu'on se dirige vers une confédération européenne.
Je pense que Renan, c'était un Européen avant l'heure.
Thomas Romer.
Il était vraiment précurseur dans cette conception de l'Europe, avec une idée que l'Europe, c'est aussi l'Europe de la recherche, c'est l'Europe de la science, l'Europe de la philosophie. Et il a eu des idées, à mon avis, que d'autres ont repris plus tard, sans forcément savoir que c'était les siens. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'il me fascine, parce que moi, je me sens pas tellement allemand, suisse, français, je me sens européen. Et par les temps qui courent, je crois que c'est un héritage de Renan qu'il faudrait valoriser plus qu'on a l'habitude de le faire.
Lorsqu'on a imaginé la Société des Nations, ce qu'on appelle la SDN, le texte de Renan a été essentiel parce que qu'est-ce qu'on cherchait à ce moment-là ? On cherchait la paix. On cherchait à construire l'avenir. Et on s'est bien rendu compte que cette construction de l'avenir, elle reposait sur un rêve d'avenir partagé, sur ce plébiscite de tous les jours, sur cette nation qui doit rassembler des hommes et des femmes d'origine différente. Et on a bien compris à ce moment-là qu'il ne fallait pas fonder l'ordre international sur une notion de race ou de religion.
Ça, c'est tout le projet qui est présent chez Renan aussi, de l'idée d'une Europe, confédération européenne, qui vienne en quelque sorte, non pas abolir les frontières, mais en tout cas les amoindrir, les relativiser, éviter qu'elles dégénèrent en cause de rivalité et d'opposition fondamentale.
Maya Boutagou, quelles sont les raisons de son déclin, j'allais dire, en termes de notoriété, juste à la fin du 19e et plutôt au début du 20e siècle?
Oui.
Il faut attendre, en gros, Jean Guiton pour le réhabiliter. Hein. Donc, on a un personnage qui est extrêmement populaire à la fin du 19e. Quand Thomas Edison et Eiffel l'invitent pour parler devant un micro, on a donc un son de Renan hein, aujourd'hui. Et puis après, on ferme la boutique, on n'entend plus parler. Comment on explique ça ?
Alors, on n'entend plus parler de Renan alors que Renan était un personnage très important à la fin du 19e siècle, en tout cas de son vivant et dans sa postérité immédiate, parce qu'à mon avis, il est très vite récupéré par les mouvements d'extrême droite, dont l'Action française. Et donc, c'est une lecture de Renan faite par Maurice Barrès, entre autres, qui éloigne Renan de la réalité de sa pensée de la nation, qui est beaucoup plus ouverte, plus flexible, plus accueillante que n'en ont fait les mouvements d'extrême droite qui ont récupéré ça, à la fois son discours et son nom.
Pourquoi Renan est tombé en oubli au XXe siècle? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une raison quand même, à mon avis, c'est la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Renan était quand même très très lié à l'enseignement biblique qui tout à coup était considéré au XXe siècle comme ne faisant plus partie des universités, comme n'étant presque plus une science. Donc faire la Bible après ce moment-là, c'était quelque chose qui se faisait dans les facultés des Église ou dans la synagogue, mais plus à l'université. Et même au Collège de France, on a dû attendre quand même. Et puis, ce qui est intéressant au Collège de France, tous les professeurs, les chercheurs qui faisaient de la Bible, ils cachaient pudiquement. Mmh. C'est-à-dire, on parlait de l'araméen ou des antiquités sémitiques. Personne disait « je fais de la Bible ». Donc, peut-être Renan, d'un côté, c'est pas la seule raison, mais pour moi, c'est peut-être quand même un élément intéressant que Renan était peut-être un peu trop bibliste pour qu'on insiste sur son œuvre. Mais c'est vrai, si aujourd'hui on repose la question est-ce que Renan doit venir au Panthéon, je pense qu'on aura peu de soutien, j'ai l'impression.
Renan est toujours convoqué dans les universités américaines. Je donne, depuis que j'ai publié mon texte sur Qu'est-ce qu'une nation, tous les ans, je donne un séminaire à l'université de Southern California sur la question de la nation, sur le texte de Renan que j'explique aux étudiants américains et que je n'ai pas la chance de pouvoir expliquer aux étudiants français. Et pourtant, il y a de grandes discussions à avoir. Il faut vraiment le lire parce qu'il pense en écrivant et donc il donne l'occasion à la fois de se contredire, mais aussi il ouvre la possibilité des ambiguïtés, il glisse, il y a des glissements qui sont dangereux, il revient dessus. Donc c'est une écriture en mouvement qui révèle une pensée en mouvement et c'est ça la beauté d'un philosophe, c'est aussi d'être capable de ne pas s'installer dans un esprit de système.
Je me résume, messieurs. L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu'exige l'abdication de l'individu au profit d'une communauté, elle est légitime. Elle a le droit d'exister. Si des doutes s'élèvent sur ses frontières, consultez les populations disputées. Elles ont bien le droit d'avoir un avis dans la question. Voilà qui fera sourire les transcendants de la politique, ces infaillibles qui passent leur vie à se tromper et qui, du haut de leurs principes supérieurs, prennent en pitié notre terre à terre. Consultez les populations. Fi donc, quelle naïveté! Voilà bien ces chétives idées françaises qui prétendent remplacer la diplomatie et la guerre par des moyens d'une simplicité enfantine. Attendons, messieurs. Laissons passer le règne des transcendants. Sachons subir le dédain des forts. Peut-être, après bien des tâtonnements infructueux, reviendra-t-on à nos modestes solutions empiriques? Le moyen d'avoir raison dans l'avenir est, à certaines heures, de savoir se résigner à être démodé.
C'était toute une vie, Ernest Renan, chantre de la nation, 1823-1892. Merci à l'écrivain et académicien Éric Orsenna, l'administrateur du Collège de France Thomas Romer, la philosophe Myriam Revaud-Dallonne, la professeure associée de l'Université de Virginie, Maya Boutagou, l'ancien président du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, l'agrégé de philosophie et ancien co-directeur de la revue Esprit, Joël Roman, l'historien et académicien Pascal Horry. Le discours « Qu'est-ce qu'une nation ?» est interprété par Charles Berling. Prise de son, Michel Gassic. Mixage, Manuel Couturier. Archivina, Samia Djedaï. Christophe Jolibois, chargé de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin. Merci au Collège de France qui nous a accueillis en ses locaux, ainsi qu'à la Maison Renan à Tréguier. Un documentaire de Jean-Michel Djian, réalisé par Charlotte Roux.